Du 1.
Ah, Dame Nature est bonne avec nous aujourd'hui, contrairement à hier, ça a pris un bout avant que le soleil se montre le bout du nez. Ben là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est bel et bien parti et ce sera le même genre de journée demain. C'est ce qu'on nous mentionne. Alternance de soleil-nuage, 40% de probabilité d'averse cet après-midi avec risque d'orage max de 22. Donc, on en profite de ce soleil-là. Humidex de 25. Ce soir, cette nuit, partiellement nuageux, 40% de probabilité d'averse en soirée et risque d'orage. Minimum de 11 degrés demain mercredi. Ce sera ensoleillé le matin, devenant alternance de soleil et nuage par la suite en après-midi. Risque d'orage aussi, même chose en soirée, max de 25. Avec humidex, température ressentie demain de 28. Jeudi de la pluie, vendredi de la pluie. Donc, ce sera ça le topo pour le restant de la semaine. Sur la route!
C'est très au ralenti ce matin pour l'accès au pont Pierre-Laporte, direction nord toujours, là, en plein nord de pointe. Même chose, pont de Québec, c'est jamé. La 20 Est, à peu près de la 73 jusqu'à Taniata, c'est très au rouge aussi. Henri IV Sud, hauteur de la 40, comme d'habitude. La 40 Est, entre Duplessis et Henri IV, capitale Ouest, à partir de mi-chemin entre Beau-Royal et Seigneurial jusqu'à Laurentienne. Laurentienne Sud, entre boulevard Le Bourgneuf et capitale. Robert Bourassa Sud, vers le boulevard Le Bourgneuf. Petit ralentissement sur Henri IV Sud, hauteur Chauveau. Et plus haut, par l'autre bord, quand tu roules vers Shannon à partir de la route Léo Machard, c'est au rouge.
Textez-nous, les amis, s'il se passe quoi que ce soit. Vous êtes nos yeux, nos oreilles, vous avez les choses à nous dire, c'est le 418-971-1021. Victor Henriquez est chroniqueur politique et associé principal chez Public Stratégie et Conseil. Salut Victor!
Salut les gars!
Il va-tu s'en aller, François Legault? Il va-tu s'en aller? Il y a eu un rapport coup de poing dans les derniers jours. C'est Christine Roy qui révélait la semaine dernière que dans la filière batterie, ben, le gouvernement l'avait échappé carrément. On a versé quoi, près de 700 millions de dollars à des entreprises qui ont ensuite fait faillite. On connaît la musique. Et elle déplorait une approche qui était peu planifiée, sans objectif et ni échéancier. Je vais l'avoir, c'est mardi. Hein? Et François Legault ressort en disant qu'il n'est pas du tout d'accord avec le rapport de la vérificatrice générale. Va-tu s'en aller? À quel point son legs est important pour lui alors que pour nous, en tant que simple citoyen payeur de taxes, on a l'impression que c'est un fiasco. Lui, il veut nous vendre un meilleur topo.
Le leg est important pour lui comme il est important à peu près pour tous les politiciens qui ont été au pouvoir. Hein. Et ce qu'il doit, la raison pour laquelle il sort maintenant, c'est que c'est vrai qu'il est directement attaqué, mais pas nécessairement par la vérificatrice générale. C'est aussi que la chef de la CAQ, Christine Fréchette, première ministre du Québec, l'a un peu lâché et pitché en dessous de l'autobus avec Pierre Fitzgibbon, puisqu'elle s'est très rapidement s'est dissociée de cette décision-là, expliquant d'ailleurs qu'elle-même avait décidé de ne pas remettre d'argent à ce niveau-là. Donc, je pense que là-dessus, c'est peut-être ce qui nous a amené à ce qu'il réagisse à nouveau, alors que pourtant, il avait dit qu'il serait en retrait de la vie publique, qu'il ne commenterait pas. Mais des fois, c'est plus fort que soi-même. Et je ne suis pas nécessairement surpris parce que c'est vrai que les attaques sont virulentes. Là, il essaie de nous expliquer que la planification a été difficile à faire. Finalement, on a eu un meilleur enrichissement, une meilleure croissance économique. Ça reste qu'on a perdu de l'argent dans des entreprises qui ont fait faillite. Et que c'est vrai que la vérificatrice générale l'a bien dit. Il semblerait qu'on a mal planifié nos investissements. Et disons qu'on a traité peut-être l'argent du gouvernement comme du capital de risque, plutôt que de le traiter comme un investissement safe qu'on a besoin de faire.
Tu sais, Victor, des fois, on est un peu... tu sais, quand on est sur le plancher des vaches, on regarde ça aller, puis là, on est dirigé par des multimillionnaires, des gens qui sont indépendants de fortune, des gens qui ont quand même de bonnes études. Là, tu sais, on parlait d'un gouvernement de comptables. Il y a un Pierre Fitzgibbon qui était là, multimillionnaire. Un François Legault qui était là, multimillionnaire. Un Christian Dubé qui était là, multimillionnaire. Et ces gens... On a l'impression que ces gens-là, quand il s'agit de leur argent, ils utilisent cet argent-là pour que ce soit payant pour eux et que jusqu'à la fin de leur jour, il n'y ait pas d'inquiétude par rapport à l'argent qu'eux ont fait. Mais pour ce qui est de l'argent du monde, par exemple, on a l'impression qu'ils dilapident notre argent, surtout avec la vérificatrice générale qui disait que c'était plus ou moins sérieux leur stratégie. C'est fâchant pour le citoyen qui travaille 40 heures par semaine. Sa conjointe travaille 40 heures par semaine. Ils ont deux enfants. Puis ils sont obligés de mettre l'épicerie sur la carte de crédit. Tu te dis, sacrifice, pourrais-tu faire un peu plus attention à notre argent?
Mais je vais me permettre une explication un peu différente, OK? Parce qu'on a tendance à justement valoriser beaucoup les gouvernements d'entrepreneurs et de grands gestionnaires. Mais tu sais, un entrepreneur, quand il devient millionnaire, c'est parce qu'il en a pris des risques. Et souvent, c'est parce qu'il a pris des risques ou est-ce qu'il ne savait pas si ça allait virer du bon bord ou du mauvais bord. Tu sais, quand tu regardes, là, par exemple, M. Legault qui a parti Transat, je suis pas mal sûr que quand ils ont parti Transat, ils ont tout mis sur la table, puis ça pouvait marcher, mais ça pouvait ne pas marcher aussi. Pierre Fitzgibbon, c'est la même chose. Il y a plusieurs investissements. Quand tu atteins ce niveau-là d'actifs, c'est parce que tu as pris des risques importants. Et en même temps, ben, quand tu prends des grands risques, tu as des grandes récompenses quand tu réussis, mais tu as aussi des grands échecs. Et les histoires d'entrepreneurs sont remplies de ça. Je vais séparer Christian Dubé, qui lui est un gestionnaire de carrière, mais encore une fois, les gestionnaires de carrière, il n'a pas été dans des portefeuilles économiques, M. Dubé, il était dans un portefeuille de gestion. Mais encore là, les gestionnaires de carrière dans les grandes entreprises se retrouvent souvent dans des zones où est-ce que, même s'ils prennent des risques, la machine est tellement bien huilée qu'elle a moins d'effet. Au gouvernement, ce qu'on a besoin aussi d'avoir, c'est de l'équilibre. Et dans ce cas-ci, je pense que le gouvernement d'entrepreneurs qui avait les mains sur l'économie aurait peut-être dû avoir quelqu'un pour équilibrer, pour dire, attention, ici, là, moi, je suis quelqu'un qui gère à la petite scène, puis moi, à la petite scène, je sais que vous prenez trop de risques avec notre argent. Je pense que c'est peut-être un peu ça aussi, puis espérons que dans les prochains gouvernements, on ait plus cet équilibre-là, notamment au niveau des gens autour de l'économie, où est-ce que trop souvent, on a tendance à penser que parce que tu es millionnaire, tu sais comment gérer l'argent public.
Victor, est-ce que ça aide Christine Fréchette, cette sortie de François Legault, parce que ça démontre encore plus l'image qu'elle veut mettre en place d'un nouveau gouvernement?
Non, parce que ça nous rappelle quand même que François Legault et Christine Fréchette étaient là depuis très longtemps. Et ça, là-dessus, Christine Fréchette, son grand défi, c'est de représenter le changement. Le changement, oui, dans le ton, mais le changement aussi dans l'image, dans le visage. Dans le fond, Christine Fréchette, ce qu'elle doit faire, c'est de nous faire oublier que ça fait 8 ans que la CAQ est au pouvoir, comme citoyen, pour qu'on lui donne la même chance qu'on va donner aux autres qui sont nouveaux. Et malheureusement pour elle, la sortie de François Legault rappelle que la CAQ est au gouvernement depuis 8 ans, que la CAQ, c'est Northvolt, que la CAQ, c'est Lyon Électrique, que la CAQ, c'est Santé Québec. Et il y a aujourd'hui, ce matin, il y a une sortie de Christian Dubé qui continue à nous rappeler les mêmes choses.
T'as
Alors,
raison.
j'aime pas l'expression des belles-mères. On va appeler ça les beaux-pères. Les beaux-pères ne laissent pas Madame Fréchette tranquille. Et là, messieurs, rentrez chez vous. C'est son moment à elle. Pourtant, les sondages sont bons et ils auraient dû rester en retraite.
Oui, quelque chose qu'on s'explique mal par rapport au sondage Palace Data qui a été rendu public hier, c'est la satisfaction envers le gouvernement. Pour ce qui est des gens insatisfaits, Victor, on est à 56%, puis par rapport au dernier sondage, c'est 14% d'augmentation de gens qui sont insatisfaits. Et quand tu regardes les intentions de vote, Christine Fréchette est en montée. Là, tu vas me dire que c'est une faible montée, mais elle est quand même en montée, ce qui fait en sorte que certaines personnes disent « Hey, il y a des possibilités qu'on ait un gouvernement caquiste minoritaire. » Comment le taux d'insatisfaction peut être aussi élevé avec une Christine Fréchette qui continue de monter dans les sondages? Tu l'expliques comment?
Je l'explique par la pauvreté du choix que les Québécois ont à faire. Lorsque les Québécois qui disent « je ne veux pas de référendum », et là, je sais que j'en parle beaucoup, là, mais ça reste que tant que Paul Saint-Pierre-Plamondon aura cette promesse de référendum, ça va rester le spectre du choix du Québec. C'est ce qu'on fait depuis près de 50 ans au Québec, de choisir sous l'angle de « je veux un référendum ou je veux pas de référendum ». Et dans ce spectre-là, Christine Fréchette, lorsqu'on la compare à Charles Millard, même si on est insatisfait de ce que le gouvernement caquiste a fait depuis 8 ans, les gens se disent « mon Dieu, je vais lui donner une chance ». Et ça commence à monter. Ça monte chez les francophones. On a vu que chez les francophones, Charles Millard a perdu 5 points. C'est énorme en passant l'école. Pour les libéraux, là, de tomber à 15% chez les francophones, c'est défaite assurée. Et là, elle est en train de gruger du vote. Parce que dans le fond, les gens disent « OK, je ne suis pas satisfait de ce qui s'est passé », mais ils sont en train d'acheter ce concept que la CAQ de François Legault, ce n'est pas la CAQ de Christine Fréchette. Elle est en train de réussir par son plan de match ces 100 derniers jours, la façon qu'elle a été active, le ton qu'elle a amené en politique, le fait qu'elle s'est dissociée de plusieurs décisions du gouvernement, elle est en train de faire cristalliser dans l'opinion publique cette différence entre les deux CAQ. Et ça l'aide à continuer à monter dans les sondages, même si c'est faiblement, dans un contexte où les gens restent insatisfaits du gouvernement actuel.
À qui ça profite la guerre entre PSPP et Charles Millard actuellement, les menaces de poursuite?
À Christine Fréchette. Je vais être très honnête avec vous, les gars, quand je regardais ça vendredi, puis je regardais ça en fin de semaine, je me suis dit, OK, messieurs, attention, là, parce qu'on dirait 2 enfants dans la cour d'école qui cherchent à ce que le surveillant vienne régler la chicane. Les Québécois, en ce moment, sont confrontés à des enjeux majeurs, hein, des questions d'inflation, des questions de coût de la vie, le système de santé qui a toujours besoin de plus d'amour, l'éducation, etc., etc. Et là, on a deux personnes qui sont en train de se chicaner sur des enjeux d'éthique. T'as dit ça, t'as dit ci, t'as dit ça, je t'envoie une mise en demeure. Je veux être très honnête avec vous, je ne comprends pas où dans la stratégie c'était une bonne idée de faire ça. Et Christine Fréchette en ressort, elle, comme justement celle qui amène quelque chose de différent, celle qui va pouvoir dire, regardez comment il reste dans les anciennes chicanes, regardez comment ces parties-là fonctionnent autrement. Moi, je veux apporter quelque chose de différent. Et vous savez quoi? Je l'écoutais parler hier, je me disais, mon Dieu, vous lui avez donné ça sur un plateau d'argent, messieurs. Alors, au PQ, au PLQ, on devrait se poser des questions. La stratégie, ça sert à quelque chose. Les objectifs doivent rester clairs. Il ne faut pas tomber dans les réactions émotives. Puis c'est ce que j'ai l'impression qu'on fait depuis vendredi.
Comment t'expliques que dans la grande région de Québec, le Parti conservateur du Québec est en première position?
Parce que dans la grande région de Québec, on n'a pas la peur du mot conservateur. Parce que dans la grande région de Québec, on est lié des conservateurs au fédéral depuis plusieurs années. Parce qu'Éric Duhaime a aussi un discours qui porte dans ces régions-là, des régions où est-ce qu'on veut avoir un gouvernement financièrement plus responsable, où est-ce qu'on veut avoir des gouvernements moins interventionnistes. Dans la région de Québec, on a une culture entrepreneuriale, une culture politique qui est différente du reste du Québec. Comme par exemple à Montréal, la culture n'est pas la même non plus, hein. Alors, ces régions-là, elles ont des particularités qu'elles veulent faire valoir et Éric Duhaime a un discours qui est intéressant. D'ailleurs, moi, j'ai hâte de l'entendre durant toute la période électorale parce que trop souvent, on a cherché, et les partis de tous les partis ont cherché à identifier Éric Duhaime à la pandémie, par exemple, ou à un discours de cette époque-là. Moi, je pense que c'est la première élection. Éric Duhaime va pouvoir faire du Éric Duhaime et on va pouvoir entendre ses idées puis on va pouvoir entendre ce qu'il a proposé. Et je pense que ça va attirer les gens. Et ça va augmenter la division du vote parce qu'en ce moment, on en a déjà parlé, les gars, c'est l'élection la plus imprévisible de notre histoire. Il n'y a personne qui serait prêt à parier beaucoup sur le résultat final parce que d'abord, on est avant même le début de l'été, mais tout peut arriver dans les prochaines semaines.
Le fait que le PQ continue à bien performer chez le vote francophone et dans les régions, est-ce que avec ce sondage-là, tu vois là jusqu'à présent une victoire du PQ, mais est-ce qu'elle est devenue minoritaire de par cette course à trois-là qui s'installe?
Ouais, pour moi, en ce moment, le scénario le plus probable, c'est celui du PQ minoritaire parce que justement, cette force chez les francophones leur donne des secteurs assez sécuritaires pour eux. Je parle de Rive-Nord, Rive-Sud, je parle de tout le long de la vallée du Saint-Laurent. Parce qu'il y a des comtés qui, naturellement, vont retourner au Parti québécois. Ce serait intéressant, par exemple, moi, c'est ce qui me préoccupe, mais ce que je vais observer de façon très attentive, c'est là où on aura des divisions à quatre. Parce que, par exemple, on a le PLQ, la CAQ qui sont forts, mais où les conservateurs vont faire 15-20 %. Ce 15-20 %-là, ben, il va aller dans le lunch de quelqu'un, puis je me demande de qui. Et ça peut tout changer. L'autre chose, c'est que lorsque les élections sont très serrées, on parle de machines de vote, de sortie de vote. Là-dessus, Christine Fréchette a une longueur d'avance parce que la coalition Avenir Québec avait, en étant au gouvernement, s'est créée une armée de travailleurs d'élection, de gens expérimentés, d'organisateurs qui seront capables d'aller sur le terrain organiser les élections. Et par exemple, la machine libérale, on verra ce qu'il en reste. Est-elle encore capable de gagner les élections juste sur la mobilisation? Tous les aspects seront importants tellement c'est serré. Et c'est ce qui fait que oui, le PQ en ce moment minoritaire, c'est un scénario. Mais vous donnez 3 points de plus à la CAQ chez les francophones, puis vous tombez dans un caquisme minoritaire probablement.
C'est ça. Donc, on est vraiment proche d'une réélection de la CAQ. Là. Tu nous le confirmes?
C'est quelque chose qui est plausible à ce moment-ci, alors qu'en janvier, je vous avais dit qu'il n'y a aucune chance que ça arrive. Aujourd'hui, je suis capable de vous dire que les chiffres nous indiquent que c'est quelque chose de possible. Moi, je pense que
Les gens ont horreur du changement. Puis en même temps, le changement, quand je regarde ça, là, sont un peu dans les extrêmes. Quoique le Parti conservateur du Québec n'est pas nécessairement dans les extrêmes, mais les changements, là, c'est Québec solidaire ou le Parti conservateur du Québec. Parce que le Parti québécois, le Parti libéral ou la CAQ, c'est un peu du pareil au même. Là. Il y a quelques différences dans les programmes. Qu'est-ce qui fait qu'on est mal à l'aise avec le changement au Québec?
Arrêtez, moi je pense que c'est parce qu'on aime les changements esthétiques, on veut des changements de chef, on ne veut pas nécessairement des changements profonds dans nos sociétés. Tu sais, le filet social québécois, notre façon de vivre, ça reste qu'on est à un endroit dans le monde qui est extrêmement stable en termes politiques, parce qu'on reste toujours à peu près au centre. Hein. Et la raison pour laquelle je vous parle aujourd'hui, puis je vous dis, puis je l'assume d'être capable de dire, OK, on a peut-être un gouvernement caquiste si les chiffres continuent à bouger dans le même sens, c'est à cause de la faiblesse de Charles Millard actuellement. C'est à cause du fait que le Parti libéral du Québec n'est pas capable de remonter chez les francophones. Parce qu'en principe, Mme Fréchette n'aurait aucune chance dans cette élection-ci si Charles Millard était à 20-22 % chez les francophones, qui représente un minimum syndical pour les libéraux. Là. Je veux dire, 22 % c'est pas énorme, mais c'est là où est-ce que les libéraux commencent à dire « OK, on a une chance de gagner ». Mais en ce moment, Charles Millard n'est défini que par ses adversaires. Même dans ses discours économiques, les discours ne sont pas assez clairs, ne sont pas assez simples. Il faut simplifier la game. C'est comme un joueur de hockey qui tiendrait trop serré son bâton, là, ouais. Puis qui jouerait de façon trop compliquée. Chez les libéraux, on doit simplifier la game. Et là, on va commencer à manquer de temps parce que oui, il y a un manque de notoriété. Et quand tu manques de notoriété, il faut absolument que tu sois capable de créer rapidement aux yeux des gens des images fortes. C'est ce que Christine Fréchette a fait. La visite à Washington, la visite à Paris, les relations avec Carney, les annonces, c'est ça qu'elle a fait. Et du côté de Millard, je n'ai pas vu ce plan de match-là. Je suis convaincu que vous non plus. On n'a pas l'impression qu'il y a une méthodologie qui est claire. Et ça, c'est ce qu'on devra avoir dans les prochaines semaines. Sinon, on va arriver au mois d'août, puis Charles Millard va se dire « j'ai pas grand-chance de remonter parce qu'il va finir par marquer de temps. »
Hey Victor, je profite du fait que tu connais bien Montréal. Là. Comment ils vont s'en sortir à Montréal avec l'histoire du poste de quartier 39, là, où on a pogné des policiers en train de se ramasser des trophées de chasse là, sur des individus qui auraient arrêté. Le chef de police se sent un peu mal à l'aise par rapport à la situation, tente de défendre la majorité de ses policiers, et avec raison, probablement que 98 % des policiers à Montréal, ce sont de bons policiers. La mairesse, qui est issue de l'immigration aussi, qui trouve la situation extrêmement triste. Son propre mari est noir, là, ce que je ne savais pas. Tout le monde est touché par ces événements-là. Au niveau communication, tu vois ça comment? Puis Montréal, vas-tu sortir de ça?
Faut que tu saches que moi, ma première gestion de crise, ça a été l'affaire Villanueva après que le jeune se soit fait tirer dans un parc à Montréal-Nord en 2008. Puis ma mère a encore un organisme dans le quartier. Ça fait 25 ans qu'elle est là-bas. Je connais très bien le secteur. Je te dirais que d'abord, la très, très, très bonne nouvelle, c'est que la dénonciation de ces policiers-là vient de l'intérieur de la police. Ça, je te dirais que c'est la différence la plus importante avec ce qu'on a vécu dans les années précédentes, c'est qu'il n'y a pas eu de silence autour de la police. Il y a des gens qui ont dit « c'est assez, puis on ne va pas là », puis des policiers du poste 39. Puis ça, il faut le souligner parce que ça fait partie de ces déclencheurs qui ont fonctionné. Maintenant, ce qu'il va falloir prendre, c'est d'abord de la distance, selon moi. Je pense qu'il faut faire attention aux réactions émotives. Là, il faut s'occuper des gens. Les gens, ça les a ébranlés. Hier, dans les rues, ma mère était là, puis elle m'a appelé, puis elle m'en a parlé. Les gens sont ébranlés. Les gens disent « mon Dieu, on pensait que ça avait changé, puis finalement, ça n'a pas changé du tout ». Tu sais, particulièrement les gens de la communauté noire et des communautés arabes, ça fait plusieurs années que, de façon individuelle, tout le monde va te dire qu'ils ont vécu un acte de racisme. Que ce soit du profilage racial, que ce soit de se faire arrêter par la police alors qu'ils n'ont pas de raison de... des éléments qui peuvent sembler anodins et qu'on se dit « ah, ben moi, je l'ai vécu, mais peut-être que les autres ne le vivent pas ». Et finalement, quand tu vois ce qui s'est passé, tu te rends compte que c'est dans le système qu'il y a un enjeu. Et là-dessus, il y a un truc qui va devoir arrêter, c'est que ça fait à peu près 5 ans qu'on s'obstine sur la sémantique du racisme systémique. Le racisme systémique, là, c'est pas que le système est rempli de racistes. C'est que dans le système, on n'arrive pas à se débarrasser d'un certain racisme. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'à ce moment-ci, dans la police, il y a un système pour filtrer les policiers. Et ce système pour filtrer n'a pas permis d'identifier ces policiers qui ont fait ces gestes-là. Et ça, c'est là-dessus qu'on doit travailler. Dans la formation à Nicolet, dans les tests psychométriques, dans la façon de recruter, il y a quelque chose qui a manqué dans le système pour éviter que quelqu'un qui a un gun et qui a pour job d'appliquer la loi de façon juste et égale envers n'importe quel citoyen, quelle que soit sa couleur, sa religion ou son sexe, n'avait pas été filtré comme étant quelqu'un qui n'allait pas le faire de la même façon quand tu es un noir ou que tu es un jeune arabe, ou jeune ou vieux, ou peu importe. Et ça, à ce moment-là, c'est là où est-ce qu'il faut arrêter de se chicaner sur le débat, parce que si tu continues à te chicaner sur le vocabulaire, tu n'es pas capable de trouver des vraies solutions. Exact. Ça va prendre une enquête publique, puis ça va prendre des politiciens qui prennent leurs responsabilités. Mais au moins, c'est la police qui a dénoncé, puis ça, ils font en parler de façon positive.
Victor Henriquez, c'est toujours un plaisir.
Merci, bonne journée.
Merci beaucoup, bye-bye, bonne semaine. Victor Henriquez, qui est chroniqueur politique et associé principal chez Public Stratégie et Conseil. Max, sur la route?
Toujours au ralenti à plusieurs points chauds. On est dans l'heure de pointe, là, avant Beau-Royal jusqu'à Laurentienne-sur-Capitale-Ouest. Laurentienne-Sud entre boulevard Le Bourgneuf et Capitale-au-Rouge. Robert-Bourassa-Sud vers le boulevard Le Bourgneuf au ralenti également. Henri-IV-Sud, hauteur de la 40. 40-Est entre Duplessis et Henri IV. Secteur des ponts pour passer de la rive sud à la rive nord. C'est encore ben jamais. Et 20-Est vers la Taniata également, là, au rouge.
Pour nous informer de ce qui se passe dans la